Alors, il y a des raisons objectives. On parlera évidemment du climat de suspicion, des précédents liés au scrutin précédent. Il y a aussi et surtout une église catholique inflexible, donc il faut rappeler déjà que à l'époque de la désignation de l'abbé Malou Malou et même de Corneille Nangaa, elle avait opposé son veto, même si cela n'avait pas empêché à ces deux personnalités de présider la CENI. Ce qu'il faut aussi ajouter, je pense, c'est la difficulté véritablement de pouvoir obtenir un consensus dès lors que vous avez effectivement autour de la table 8 confessions religieuses qui sont d'ailleurs régies dans leur fonctionnement par une charte qui prévoit d'ailleurs dans son article 17 qu'en cas d'absence de consensus, il faille passer au vote. Et c'est précisément parce que ce vote a eu lieu sans l'assentiment de l'Église catholique que nous sommes aujourd'hui dans ce point de blocage.
Alors, Fred, on a d'un côté 6 confessions religieuses qui sont d'accord sur un nom, et d'un autre côté 2 organisations, la CENCO et l'Église du Christ au Congo, qui se démarquent. Va-t-il se poser un problème de légitimité pour le candidat désigné par les 6 autres si les églises catholiques et protestantes, qui revendiquent en fait le plus de membres à travers le pays, ne sont pas d'accord? Je crois qu'on a quelques soucis pour vous entendre. Oui, allez-y.
Merci beaucoup, Abdou. Je pense qu'il y a un problème de, il y aura un problème de légitimité absolument pour de nouveaux candidats. Comme Henri le disait, ce ne sera pas la première fois, au moins, que l'Église catholique émet ses réserves et même refuse de participer à la désignation d'un président de la CENI. On sait que depuis 2006, pratiquement, depuis 2005, l'Église catholique n'a jamais validé un président de la CENI qui devrait normalement venir de confession religieuse. Mais dans les années passées, l'Église catholique a été parfois seule contre toutes les autres églises. Pour cette fois, on voit que les deux églises les plus importantes du pays ne soutiennent pas ces candidats. Et d'une part, il y a un problème, elles sont inflexibles, mais d'autre part, elles ont des réserves que je dirais compréhensibles par rapport à un candidat dont plusieurs de ses confessions religieuses, selon leurs documents internes d'ailleurs, disent avoir subi des pressions pour pouvoir les désigner. Donc oui, pour répondre à votre question, le prochain président de la CENI, s'il est décidé sur base du PV des 6 confessions religieuses, part avec un déficit sérieux de légitimité.
Henri, en juillet de l'année dernière, la CENCO et l'ECC s'étaient aussi opposés à la désignation de Ronsard Malonda pour diriger la CENI, n'est-ce pas, l'accusant d'être trop proche de l'ex-président Joseph Kabila. Comment est-ce que tout cela est interprété, dans les médias congolais au Congo? Je sais que vous êtes très actif au niveau des médias congolais.
Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Église catholique a toujours eu un rôle, j'allais dire, politique important, ne serait-ce que pour une seule et bonne raison, c'est qu'elle est l'un des principaux aiguillons de la société congolaise. Sa prise de position en 2018, à l'issue du scrutin, vous en souvenez bien évidemment, n'ont pas rendu, je dirais, les relations faciles avec les gouvernants. Mais il faut néanmoins rappeler que la place de l'Église est au milieu du village. Il y a eu, il faut bien le dire, et je le dis en toute objectivité, un certain nombre de prises de position qui ont peut-être brouillé, je dirais, la nature du message de l'Église qui se devait consensuel et sans exclusive. C'est un premier élément. Le deuxième élément, lorsque l'on évoque les questions d'éthique et de morale sur des candidats et que l'on est en difficulté d'en apporter la preuve, je pense qu'il faut s'abstenir de jeter des anathèmes au risque, je dirais, d'aggraver davantage le climat de suspicion. En ce qui me concerne, en tout cas, je considère que le bon sens devrait prévaloir et qu'à un moment donné, l'Église devrait quand même se déterminer pour essayer de pouvoir changé de posture lorsque l'on sait que les trois derniers présidents de la CENI, exception faite de Ronsard Malonda parce que lui-même s'était prévalu de sa qualité de membre de l'église kimbanguiste, a été écarté d'office, mais tout de même, Corné Nanga et l'abbé Malumalu n'ont pas été élus avec les suffrages de l'église catholique. Il faut changer de paradigme, privilégier l'intérêt national et aller de l'avant sans alimenter inutilement la suspicion.
Mais depuis les années 90, quand même, on a vu que l'Église joue un rôle important dans la démocratisation. Est-ce que quand même, on ne peut pas dire qu'en fait, ils sont dans une certaine continuité dans ce qu'ils considèrent comme un combat?
Le combat a changé de nature pour la simple et bonne raison que l'Église, cette fois-ci, ne prend plus de gants pour, je dirais, faire prévaloir son point de vue. Certes, il est de son rôle et de son devoir de rappeler les principes fondamentaux qui régissent, je dirais, la société qui est la nôtre de la manière la plus simple, mais il y a malheureusement parfois des discours qui peuvent prêter à confusion et qui peuvent parfois sortir l'Église de son rôle primordial.
Alors, Fred, la CENCO et le CC sont-elles trop exigeantes ou c'est peut-être l'importance des enjeux de 2023 qui justifie leur position?
Je pense que c'est les enjeux de 2023 et ça va au-delà. C'est un problème de gouvernance et c'est les racines des conflits au Congo, des problèmes de gouvernance comme des décrits d'ailleurs dans notre constitution qui parlent de déficits de légitimité ou de conflits de légitimité depuis des années 60 qui est à l'origine de nombreuses crises politiques qu'on a vécues. Les pays, ce dont le pays a besoin, c'est d'un processus électoral réellement indépendant, réellement transparent, qui va pour une fois donner à des gouvernants qui ont été réellement élus et qui sont redevables envers cette population et qui peut mettre le base qui peut mettre les bases pour une nouvelle gouvernance. Ce qu'on a vu jusque-là, c'est que à chaque fois qu'on veut organiser les élections, on veut les organiser avec des à peu près. Et ce qu'on n'arrête pas de dire à la population congolaise, c'est exactement comme ce que M. Henry est en train de dire. Constatons, passons, avançons. Mais en avançant, on ne construit pas en fait sur des bases solides et on perd le temps à discuter chaque année.
Alors, justement, je reste avec vous, Fred. On parle beaucoup de ces confessions religieuses, mais où est la société civile? Où sont les autres organisations de la société civile dans ce processus et qu'en pense-t-elle?
Il faut comprendre les enjeux autour de ces deux confessions religieuses-là. C'est qu'ils doivent, normalement, selon la nouvelle loi, la CENI a 15 membres, dont, si je me trompe, 7 membres du bureau. De ces 7 membres du bureau, il y a le président de la CENI qui provient des confessions religieuses. Son poste et son rôle au sein de la commission électorale rend ce processus particulièrement important, d'où la nécessité de pouvoir le contrôler. Les autres membres de la CENI, donc les églises devraient désigner 2 personnes et les autres composantes devraient désigner les 3 autres personnes. Les autres composantes ont déjà désigné ces 3 autres personnes d'après les informations dont je dispose et ils ont transféré, il y a la CIMOCEL et l'EDICEL qui devraient avoir envoyé leur nom au sein de, disons, Parlement. Il y a aussi les organisations féminines qui ont envoyé leur nom. En plus de ça, il y a toute la société civile en fait qui observe ce processus et qui veut qu'on ait pour une fois des élections crédibles. Donc c'est une question qui intéresse beaucoup les gens de la société civile et il y a plus que les églises qui contribuent, mais elles ont un rôle particulièrement important vu du fait qu'elles doivent désigner le président de la commission électorale.
Henri, avant d'aller aux commentaires Facebook, vous avez un mot sur justement le rôle de la société civile de façon plus globale?
Oui. Oui, tout à fait. J'aimerais justement rebondir sur ce que vient de dire Fred Bahouma. Vous avez les deux principaux organes, en fait, de la CENI, le bureau composé de 7 membres. On sait, cela vient d'être dit, que le président viendra de la société civile, même si ce sont les confessions religieuses qui vont le désigner. Vous avez 2 membres pour l'opposition et 4 membres pour la majorité. Ça, c'est pour le bureau, l'organe de gestion de la centrale électorale. Vous avez ensuite la plénière. Il y a 15 membres dans lequel il y a 5 membres de la société civile. C'est une nouveauté, étant donné que dans le passé, il n'y avait que 3 membres de la société civile. Vous avez également 6 membres de la majorité et 4 membres de l'opposition. En réalité, quand on y réfléchit, il s'agit beaucoup plus d'une question d'arithmétique et, je dirais, de poids, car cela sera évidemment éminemment important au moment, je dirais, des délibérations, et c'est tout l'enjeu précisément de ce qui nous attend dans les 2 prochaines années.
D'accord. Alors, en tout cas, beaucoup de réactions sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Alphonse Mbouaki depuis Kinshasa qui écrit « La loi électorale permet de trouver un consensus dans la désignation du président de la CENI ou de procéder par vote, mais les attaques des édifices catholiques sont condamnables et répréhensibles par la loi. » Christian Politassi en République démocratique du Congo, toujours, nous dit « Nous condamnons les attaques perpétrées contre l'archevêché et les édifices de l'Église catholique, mais force est de constater que certaines confessions religieuses, notamment les églises catholiques et protestantes, veulent se comporter comme des États en brandissant le droit de veto. » Et puis Marie-Paul Awa, à Kinshasa toujours, nous dit « Une situation très désolante où le pouvoir en place utilise toutes les astuces pour contrôler la CENI afin de frauder en 2023 les mêmes pratiques jadis reprochées au régime passé sont utilisées par le pouvoir actuel. » Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, direction Kinshasa, où les populations suivent avec intérêt les péripéties de la désignation du président de la CENI. Les protagonistes ont du mal à parler le même langage, mais beaucoup espèrent un dénouement heureux. Propos recueillis dans la capitale congolaise par Patrick Abega.
Les partis politiques ne puissent pas, tant bien même que la loi prévoit des quotas au niveau de la CENI, ne puissent pas s'accaparer de l'organe, parce qu'une fois que l'organe est inféodé à un parti politique, les élections seront toujours douteuses. Voilà pourquoi, pour ce qui nous concerne, j'aimerais appeler tout le monde au calme, tout le monde au respect de la loi, parce que la loi est claire dans ce qui concerne les désignations des de membres de la CENI. Et nulle part dans notre constitution, il est dit que la République démocratique du Congo est un État catholique ou un État protestant. Donc les autres confessions religieuses qui ont été minoritaires par rapport à cette désignation du président de la CENI et des autres membres, qu'ils puissent se conformer à la loi de la majorité. Pour qu'il puisse encore retraiter cette situation.
façon à ce que nous pouvons avoir les gens crédibles qui sont capables à faire des élections et de donner des résultats palpables par rapport aux élections.
Nous voulons avoir les élections libres, démocratiques, transparentes en 2023. Nous ne sommes pas d'accord pour un glissement. Nous demandons à l'Assemblée nationale qui a reçu des procès-verbaux, des confessions religieuses, d'examiner la situation, d'examiner les profils des candidats, parce qu'ils doivent miser sur la compétence, sur l'intelligence et sur l'expérience pour que nous ayons un bon président de la Commission électorale nationale indépendante.
Voilà quelques réactions à Kinshasa et je rappelle mes invités à Bruxelles, Henri Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT diplomatique, et à New York, Fred Bauma, chercheur au groupe d'études sur le Congo, activiste des droits humains. Alors, Henri, quels sont selon vous les défis qui attendent la CENI qui doit organiser les prochaines élections dans ce vaste territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés?
Alors le principal défi est indéniablement le respect des délais constitutionnels, c'est-à-dire organiser effectivement les élections en 2023. On oublie souvent de le rappeler, mais l'élection en réalité doit être organisée 3 mois avant la fin du mandat du président élu. Donc ça veut dire dans le meilleur des cas en septembre-octobre 2023. Ça c'est une première chose. Ensuite il y a bien évidemment l'éternel défi à la fois financier, logistique, avec une situation politique, économique, sociale et sécuritaire qui, vous vous en doutez, a de fortes chances d'évoluer. Mais ce qui se joue à l'heure actuelle sera déterminant pour avoir un aperçu de ce qui pourrait se passer. Une absence de consensus pourrait effectivement créer les conditions d'un glissement, parce qu'effectivement la situation ne peut pas perdurer. Je rappelle que cela fait maintenant 3 mois que 2 provinces de la RDC sont sous état de siège. C'est un moment où précisément une démonstration d'unité, de concorde nationale aurait dû précisément prévaloir, et c'est aussi une opportunité. Ce dossier, plus précisément de la désignation du président de la CENI, qui aurait dû faire en sorte que l'on puisse assez rapidement créer les conditions d'un consensus qui malheureusement tarde à venir. Donc pour me résumer, c'est effectivement le respect des délais constitutionnels, le défi financier, logistique, avec bien évidemment un certain nombre de préalables qu'il faudra remplir d'ici là.
Alors on pourra revenir sur cette question d'un éventuel glissement, mais également sécuritaire. Mais Fred, qu'est-ce qu'on doit faire du fichier électoral? Faut-il une refondation complète ou faut-il partir sur la base de celui avec lequel on est allé aux élections de 2018?
Si vous me permettez, je voulais revenir un tout petit peu sur les défis. Je suis d'accord avec Henri sur tout ce qu'il a dit en termes de défis, en termes de délais et des défis logistiques. Mais je pense qu'un autre grand défi de la CENI, et peut-être le plus grand, c'est celui de restaurer la confiance dans le processus, la confiance de la majorité de la population. Oh. Et il faut dire que d'une certaine manière, on part dans ces élections avec les traumas des dernières élections et des élections précédentes, de 2011, où à chaque fois la population a eu l'impression qu'en fait ses voix ne comptaient pas du tout. Donc ça c'est encore un défi beaucoup plus grand. Alors en termes de fichiers électoraux, je pense que c'est des questions beaucoup plus techniques qui vont faire aussi l'objet des débats probablement animés dans les prochains mois. Il faut absolument renouveler ces fichiers électoraux à cause de l'évolution de la population, etc. Mmh. On parle de plus en plus de possibilités d'un recensement. En fait, c'est un sujet qui avait déjà été initié à l'époque de Joseph Kabila et qui a soulevé beaucoup de protestations. Mais donc ça risque d'être un autre débat animé, mais absolument il faudra revoir actualiser au moins le fichier électoral et le nettoyer suffisamment pour être sûr d'avoir un fichier dans lequel les gens ont confiance.
D'accord. Avant de repartir à Bruxelles, Fred, on sait que Martin Fayoulou, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, a récemment mis en garde contre toute idée de report de l'échéance de 2023. Au-delà de lui, y a-t-il vraiment une inquiétude sur ce sujet, même si c'est encore trop tôt?
C'est encore trop tôt, mais il y a beaucoup d'éléments qui montrent qu'il n'y a pas une volonté ferme de pouvoir forcément organiser les élections en 2023. On commence à émettre un peu le même flou comme dans le Kabila où on parlait des dates, mais sans vraiment en faire des délais rigides qu'on ne devait pas dépasser. Et je pense que c'est encore assez tôt pour pouvoir s'alarmer sur ces questions-là. Mais les élections ne se préparent pas en un jour. Et plus on perd le temps en ne trouvant pas des solutions à des questions qui demandent qu'on le trouve en ce moment, on court les risques effectivement des délais. Et si on veut apprendre des expériences passées, à chaque fois qu'on parle des prolongations, des possibilités de glissement, c'est en fait des crises politiques qu'on est en train de nourrir et il vaut mieux le prévenir aujourd'hui plutôt que d'attendre que les gens commencent à aller dans la rue pour pouvoir le répondre.
Henri, l'inquiétude de Fayoulou est-elle fondée ou pas?
Écoutez, c'est une inquiétude qui est partagée par bon nombre de concitoyens, mais encore une fois, il ne suffit pas de jeter des anathèmes. Lorsque l'on prend par exemple les deux candidats, celui qui semble avoir été désigné pour le bureau et pour la plénière, on se rend compte, et ça c'est quand même une différence par rapport aux anciens animateurs, c'est que ils ont une expertise avérée dans leur domaine. Donc on ne peut pas à la fois reconnaître leurs compétences et les soupçonner d'être inférieurs à tel ou tel camp. Donc je pense que là aussi, il faut être raisonnable et ne pas, comme ça, alimenter inutilement un climat de suspicion. Et je partage tout à fait ce que vient de dire Fred Bauma. Le principal défi sera effectivement rétablir la confiance, parce que c'est vrai que ces dernières années, il faut remonter quand même à 2006, elle a été sérieusement écornée.
Et peut-être on a moins de deux minutes pour parler rapidement de la sécurité, même si vous l'avez brossé un peu plus tôt, Henri. On peut toujours aller aux élections partout dans le pays dans deux ans, vous pensez, Henri?
La situation n'est pas la même. C'est-à-dire il y a deux ans et demi, quasiment, il y a une partie de la population, notamment dans le Nord-Est, qui n'a pas pu prendre part au vote. Ici, nous sommes dans une situation où on est en train de restaurer l'autorité de l'État. Donc, il n'y a pas de paralysie à craindre par rapport à ce qui s'est passé il y a de cela deux ans. Je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont effectivement réunies pour que l'on puisse respecter les délais constitutionnels. Mais pour cela, il va falloir que les confessions religieuses qui sont aujourd'hui à la manœuvre pour la désignation du président de la centrale, donc du bureau. D'accord. Et de la plénière, puissent mettre de l'eau dans leur vin, et je pense évidemment à la Cinco et à l'Église du Christ au Congo.
D'accord. Et dites-moi, Fred, préparer des élections, comme on l'a dit, c'est aussi s'assurer qu'elles se déroulent dans la sécurité. L'Est du pays, vous êtes confiant que dans deux ans, on pourra voter partout comme...
Alors, je vais encore revenir une seule fois sur avant de répondre rapidement. Je pense que la compétence à la tête de la CENI, c'est un critère important. Et comme il a dit, les candidats qui sont proposés jusqu'à présent sont très compétents, je pense. Mais le problème de la crédibilité et de l'indépendance est tout aussi important. Sur le plan de sécurité, toutes les élections qu'on a eues jusque-là ont été dans un moment où le pays
fait la
place.
On pourra certainement revenir plus en détail sur cette question sécuritaire dans l'Est de la RDC. Nous arrivons malheureusement au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent et sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Je n'oublie pas bien sûr toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.